Chapitre 21. La main guidant l'œuvre. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Pour celui qui met sa confiance en Dieu, ses soins ne cessent de se manifester. Il arrive parfois, cependant, que ses soins soient plus évidents, tels que des délivrances de maux et de dangers, visibles et invisibles, et aussi d'ouvertures providentielles pour la propagation de sa vérité. C'est de ces thèmes que traite ce chapitre. La première vision au Michigan. Au mois de mai 1853, Frère White et son épouse visitèrent le Michigan. C'était la première fois qu'ils voyageaient à l'ouest de Buffalo, New York. Le dernier sabbat de mai, ils étaient à Tyrone, et dans ce lieu, Madame White vit en vision les différents groupes de personnes observant le sabbat dans l'État, ainsi que des avertissements sur les influences qui étaient susceptibles de travailler contre eux. Le 2 juin, à Jackson, elle écrivit 8 pages de papier ministre, décrivant certaines choses qu'elle avait vues. Elle m'a donné une copie de la vision écrite au crayon, à condition que je lui fournisse une copie écrite à l'encre. Une femme qui faisait profession de sainteté. Parmi toutes les choses qu'elle vit, il y avait le cas d'une femme qui tentait de s'introduire parmi notre peuple. Elle a dit que cette femme prétendait avoir une grande sainteté. Madame White ne l'avait jamais rencontrée et ne la connaissait pas, si ce n'est ce qui lui fut montré d'elle dans cette vision. Non seulement elle indiqua la façon de procéder de cette femme, mais aussi qu'elle jetterait un regard moralisateur lorsqu'elle serait reprise et dirait « Le Seigneur connaît mon cœur ». Elle dit que cette femme voyageait dans le pays avec un jeune homme, alors que son mari, un vieil homme, était à la maison et travaillait pour subvenir à leurs besoins dans leurs mauvaises actions. Madame White dit que le Seigneur lui montra que, malgré les prétentions de la femme à la sainteté, elle et le jeune homme étaient coupables de violer le 7e commandement. Avec la description écrite de ce cas dans ma poche, j'attendis avec une certaine anxiété pour voir comment les choses allaient tourner. La réunion de Vergennes, Michigan. Nous eûmes des rencontres à Jackson, Battle Creek, Bedford et Hastings, puis nous arrivâmes à Vergennes, dans le comté de Kent, qui se révéla être l'endroit où la femme vivait. Nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions passer la nuit le 11 juin, un peu avant le sabbat. Notre lieu de repos était la maison d'un frère White, qui avait autrefois été ministre d'une dénomination chrétienne. Comme il s'agissait d'une région nouvellement établie, les préparatifs pour nos réunions avaient été faits 5 kilomètres plus loin, dans une grande grange récemment construite, et il s'est avéré que la femme vue dans la vision vivait 3 kilomètres après le lieu de réunion. Témoignage destiné à la fanatique. Le 12 juin, à 10h30, nous nous sommes réunis dans la grange pour la réunion. Madame White s'assit à l'extrémité gauche de la tribune. Je me suis assis à côté d'elle, frère Cornell à côté de moi et frère White à la droite de la tribune, parlant. Après qu'il eut parlé une quinzaine de minutes, un vieil homme et un jeune homme arrivèrent ensemble et s'assirent sur le siège de devant, à côté de la tribune. Ils étaient accompagnés par une grande femme, mince, au teint foncé, qui prit place près de la porte. Après un court discours de frère White, sœur White se leva et introduisit son intervention en parlant des soins que les ministres doivent prendre de ne pas gâcher le travail qui leur est confié, et elle utilisa le texte « Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel ». Elle dit que ce n'était pas dans l'ordre de Dieu d'appeler une femme à voyager dans le pays avec un homme autre que son mari. Finalement, elle dit clairement « Cette femme qui s'est assise il y a peu de temps près de la porte prétend que Dieu l'a appelée à prêcher. Elle voyage avec ce jeune homme qui vient de s'asseoir en face du bureau, alors que ce vieil homme, son mari, que Dieu ait pitié de lui, reste à la maison pour gagner les moyens qu'ils utilisent pour continuer leur iniquité. Elle prétend être très sainte, sanctifiée, mais, avec toute sa prétention à la sainteté, Dieu m'a montré qu'elle et ce jeune homme sont coupables de violer le 7e commandement. Toutes les personnes présentes savaient que Madame White n'avait jamais vu ces gens avant leur arrivée dans la grange. Les désignant et détaillant leur caractère de cette façon eut une influence sur l'esprit de ceux qui étaient présents, augmenta leur confiance et confirma leur foi dans les visions. Les paroles prononcées comme prédit. Alors que Madame White donnait son témoignage, les regards se tournèrent avec anxiété vers Madame Alcott, la femme reprise, pour voir comment elle recevait ce qui était dit et ce qu'elle allait dire et faire. Si elle était innocente de l'accusation portée contre elle, on devait naturellement s'attendre à la voir se lever et nier la chose entière. Si elle était coupable et énormément corrompue, elle ne serait peut-être pas très habile à nier le tout, bien qu'elle sache que cela était vrai. Au lieu de cela, elle fit exactement ce que le témoignage avait indiqué qu'elle allait faire quand elle serait reprise. Elle se leva lentement, tandis que tous avaient l'œil fixé sur elle, et avec un regard moralisateur, dit doucement « Le Seigneur connaît mon cœur », et s'assit sans prononcer d'autres mots. Elle avait dit exactement ce que le témoignage avait indiqué qu'elle allait dire, et elle le dit de la même manière. Culpabilité reconnue. C'est vrai, Dieu connaissait leur cœur, et ils se savaient eux-mêmes coupables de l'accusation, car peu après, le jeune homme dit à M. Gardner, un résident du même lieu qu'il interrogea avec insistance sur ce sujet, « Monsieur Gardner, ce que Mme White a dit à propos de nous était trop vrai. » Et la femme, après avoir dit à Mme Wilson de Greenville en 1862 qu'elle n'oserait pas dire un mot contre Sir White de peur de se trouver en lutte contre Dieu, a admis que ce qui fut dit d'elle et du jeune homme était vrai. Le parti du messager. Messager. Au cours de l'automne 1853, quelques mécontents du Michigan se réunirent et commencèrent à publier une feuille intitulée « Le Messenger of Truth », « Le messager de la vérité ». La mission de cette feuille et de ses dirigeants semblait être de détruire et diffamer au lieu de construire. De nombreux mensonges furent insérés dans ces pages, qui nous ennuyèrent dans notre œuvre. Et comme c'était notre première expérience avec une telle attaque ouverte, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de réfuter leurs déclarations diffamatoires. Faire cela prenait du temps qui aurait dû être utilisé pour faire avancer la vérité confiée à nos soins, et cela convenait bien au but de Satan qui était sans doute l'instigateur de cette opposition. Et donc cet état de choses continua jusqu'au 20 juin 1855 au soir, quand frère White, son épouse, frère Cottrell et moi-même venions juste de terminer une réunion à Oswego, New York. Nous avions été gênés pendant notre réunion par un certain Lillis, qui entra et distribua ces documents diffamatoires parmi les gens. Et donc la question de notre devoir dans cette affaire survint encore une fois. Tous les efforts faits précédemment pour répondre à leurs mensonges n'avaient qu'abouti à leur multiplication. Conseils et prédictions. Lors d'une réunion de prière qui eut lieu ce soir-là chez John Place, dans la ville d'Oswego, Madame White eut une vision dans laquelle elle vit que si nous nous en tenions à notre travail, à prêcher la vérité, indépendamment de tous ces gens du parti du messenger, alors ils se feraient la guerre entre eux et leur périodique péricliterait, et lorsque cela se produirait, nous constaterions que nos rangs avaient doublé. Croyant que ce témoignage venait du Seigneur, nous avons aussitôt commencé à agir en harmonie avec lui. Effondrement du parti du messenger et de leur périodique. La cause de la vérité progressait rapidement, tandis que ceux du parti du messenger eurent des problèmes entre eux. En un court laps de temps, le parti fut dispersé, beaucoup de leurs chefs ayant abandonné le sabbat. Leur périodique cessa bientôt par manque de soutien, et celui qui avait travaillé, pendant un temps, comme son éditeur, devint maître d'école. Mais n'ayant pas appris à se gouverner lui-même, il échoua complètement à gouverner ses élèves. En essayant de corriger l'un des enfants de son école, il sortit un revolver, qui se cassa, mais ne fit pas feu. Pour éviter de se faire pendre, il fut obligé de fuir au Canada de nuit. Effet sur la cause adventiste. À cette époque, il y avait un plus grand état d'harmonie et d'unité parmi nous que jamais. Et alors que des efforts étaient faits pour faire avancer le message, la voie s'ouvrait dans toutes les directions. Dans le numéro 10 du 11e volume de la Review, du 14 janvier 1858, l'éditeur, en parlant du résultat du travail du messenger, déclara « Au moment de la désaffection, quand l'effort était fait pour briser la Review, les biens de l'Église au bureau étaient évalués à $700 seulement. Depuis, ils sont passés à $5000. Il y avait alors environ 1 000 000 d'abonnés payants, maintenant il y en a 2 000. En plus d'une longue liste d'abonnés gratuits. Comme nous avions alors atteint le moment, 1858, où le parti du messenger s'est divisé et dispersé, et où le messenger cessa d'exister, les chiffres ci-dessus sont significatifs. Alors que le nombre d'abonnés payants à la Review avait exactement doublé, le nombre de croyants avait plus que doublé. Ainsi, la prédiction faite par Madame White en juin 1855 s'était accomplie. Réunion sous la tente suggérée pour la première fois. C'était notre coutume dans les premiers jours du message de tenir des réunions dans les maisons-écoles lorsqu'il n'y avait pas de meilleur endroit disponible. Dans un bâtiment de ce type, à une occasion, une telle foule de gens s'était réunie que deux maisons de cette taille n'auraient pas pu suffire. Pour être entendu par tous, l'orateur se tenait devant une fenêtre ouverte et parlait à ceux qui étaient dans la maison et à un plus large public assis dans leur voiture et sur l'herbe. Ce fut la vue de cette grande assemblée qui conduisit à considérer la tenue de réunion sous la tente. Première réunion sous la tente à Battle Creek, Michigan. Par conséquent, le 22 mai 1854, il fut décidé, par James White et d'autres en réunion, que ce serait un plan faisable d'utiliser des tentes pour des réunions. À cette époque, de grandes tentes étaient très rarement utilisées pour autre chose que pour les cirques, ménageries et spectacles de différents types. Le Michigan fut le premier état dans lequel les adventistes du septième jour commencèrent un projet dans ce genre de travail. La première réunion sous la tente eut lieu à Battle Creek le 10 juin 1854. À l'heure actuelle, ce mode de tenue de réunion en été a pris de grandes proportions. Camps Meetings suggérés. Au cours de l'année 1868, une autre mesure offensive fut prise. Le bien fondé de la tenue de Camps Meetings fut dûment considéré, et la décision fut prise que ce serait une excellente façon d'accueillir les grands rassemblements de notre peuple dans des assemblées générales. En ayant une grande tente pour les services publics et de petites tentes familiales, les gens seraient confortables, et nous pourrions donc avoir un certain nombre de jours bénéfiques de réunions et de cultes. Le premier camp meeting à Wright, Michigan. Le premier camp meeting eut lieu à Wright, Michigan, du 1er au 7 septembre 1868. Ces importantes réunions générales de nos gens se sont multipliées, de sorte que plus de 50 camp meetings ont lieu chaque année dans diverses parties du champ. Ces camp meetings ne sont pas tenus uniquement en Amérique, mais également en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. La plus grande assemblée de ce genre jamais organisée par notre peuple fut en 1893 à Lansing, Michigan. Dans ce grand rassemblement, il y avait 3400 personnes vivant dans plus de 500 tentes familiales. Plus de 150 000 mètres de toile de tente étaient entrés dans la confection des différentes tentes de ce camp. Délivrance d'une catastrophe ferroviaire. Le jour après avoir pris la décision d'acheter notre première tente de 20 mètres, 23 mai 1854, frère et sœur White, étant alors à Jackson, dans le Michigan, devaient commencer leur voyage pour le Wisconsin, où ils devaient travailler pendant un certain temps. Nous avons passé l'après-midi à la maison de Palmer, à une courte distance seulement de la gare. Plusieurs fois dans l'après-midi, frère White dit « J'ai des sentiments étranges concernant ce voyage, mais Hélène, nous avons un rendez-vous et nous devons partir. Si je n'avais pas de rendez-vous, je ne partirais pas ce soir. » Comme la nuit tombait, l'heure de l'arrivée du train approcha et nous eûmes un moment de prière. Tous semblaient amenés à prier pour la sécurité de frère et sœur White pendant ce voyage. Comme nous nous relevions, frère White a exprimé sa foi que le Seigneur prendrait soin d'eux et les garderait. À 8 heures, je suis allé au train avec eux pour les aider à obtenir des sièges et installer leurs bagages. Nous montâmes dans un wagon avec des sièges à haut dossier, appelés à l'époque « voiture-lit ». Madame White dit « James, je ne peux pas rester dans ce wagon, je dois sortir d'ici. » Je les aidai à obtenir une place dans le milieu du wagon suivant. Madame White s'assit avec ses paquets sur ses genoux, mais elle dit « Je ne me sens pas chez moi dans ce train. » La cloche sonna, et leur souhaitant un rapide « au revoir », je partis rapidement pour aller chez Sirenius Smith pour y passer la nuit. Vers 10 heures, nous fûmes tous très surpris d'entendre frère White, que nous supposions être sur le chemin de Chicago, demandant à entrer. Il dit que le train était sorti des rails 5 km à l'ouest de Jackson, que la plus grande partie du train, y compris la locomotive, était une épave totale. Mais alors qu'un certain nombre avait été tué, lui et Madame White s'en étaient échappés indemnes. Il s'est vite procuré un cheval avec un attelage et, en compagnie d'Abraham Dodge, est allé chercher Madame White, que le frère avait transportée sur une certaine distance dans ses bras, était passé sur une bande de terre marécageuse, humide et à travers un petit ruisseau d'eau, jusqu'à un endroit sûr, éloigné de la scène du désastre. Tôt le lendemain matin, je suis allé avec Monsieur Dodge pour voir l'accident. À un endroit où la route croise les rails en oblique, un bœuf s'était couché pour se reposer directement sur la voie ferrée. La locomotive n'avait pas de garde-boue, et lorsqu'elle buta contre l'animal, elle dérailla sur la gauche. Lorsque la locomotive entra en contact avec le sol, le fourgon à bagages, contenant le coffre de livres de frère White, sauta complètement hors de la voie, et il ne fut pas abîmé. Au même moment, le wagon à l'arrière du train se sépara du reste du train sans intervention humaine et s'est tranquillement arrêté sur la voie. La locomotive et le wagonnet de charbon roulèrent sur la terre hors de la voie sur quelque 30 ou 40 mètres, puis la locomotive buta contre une souche de chêne d'environ 1 mètre de diamètre. La force du train était telle que la locomotive se retourna et l'arrière du wagonnet de charbon bascula par-dessus la voie. Le corps principal du train percuta à pleine allure l'épave de la locomotive, produisant ainsi un deuxième choc. Le premier wagon qui percuta la locomotive était un wagon express qui fut réduit en petits morceaux de bois. Il fut réduit, avec son contenu, en une masse de détritus entassés sur le wagonnet de charbon et tout autour. Le wagon suivant était un wagon de deuxième classe, contenant 18 passagers, dont l'un fut tué et tous les autres ont été plus ou moins blessés. Ce wagon fut coupé en deux par la voiture-lit qui le traversa. La partie avant du wagon fut brisée en morceaux et le siège dans lequel Madame White ne se sentait pas bien de rester fut complètement écrasé. Preuve de délivrance divine. Alors que nous regardions l'épave, puis le wagon dans lequel frère et sœur White étaient au moment de l'accident, qui se tenait tout seul, tranquillement, à environ 75 mètres de l'épave, nous fûmes poussés à dire dans nos cœurs que Dieu entendit notre prière, et qui sait, qu'il envoya son ange pour séparer ce wagon pour que ses serviteurs puissent échapper indemnes. Cette pensée impressionna encore plus particulièrement nos esprits quand le préposé au freinage dit qu'il n'avait pas décroché le wagon, et de plus, que personne n'était sur la plateforme lorsque cela arriva, et que la façon dont cela s'était produit était un mystère pour lui et pour tous les cheminots. Et ce qui était encore plus mystérieux pour eux était que la chaîne et la vis n'étaient pas cassées, et la vis était, avec sa chaîne, sur la plateforme de la voiture accidentée, comme si elle avait été placée là par une main attentive. Le soir du 24, la voie était suffisamment dégagée des déchets pour laisser les trains rouler comme d'habitude, et frère et sœur White montèrent de nouveau dans le train et arrivèrent sans encombre à leur rendez-vous dans le Wisconsin. Adversaire repris. Tout n'était pas sans difficulté dans l'ancien Israël. Ils avaient des ennemis qui cherchaient à entraver leur progression à chaque étape. Le ramassis de gens et ceux qui n'étaient pas consacrés à l'intérieur du camp étaient des outils disponibles par qui Satan chercha à attiser mécontentement, conflits, murmures et rébellions. Le fait que Dieu faisait prospérer ceux qui avaient confiance et que la victoire accompagnait leurs efforts était la preuve que ce peuple avait trouvé grâce à ses yeux, que la main du Seigneur les dirigeait. Il en fut de même au début et dans les progrès du message du troisième ange. Ces progrès n'étaient pas parce que les vérités présentées étaient agréables au cœur naturel de l'homme. Au contraire, la vérité centrale du message, le sabbat du Seigneur, entre en conflit avec les intérêts mondains, égoïstes, séparant des affaires du monde, deux jours par semaine, ceux qui lui obéissent. La cause de la vérité présente a eu ses ennemis extérieurs, déterminés et persistants dans leurs efforts à renverser l'œuvre. On peut dire d'eux, selon les paroles du psalmiste, « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. » Psaume 124, versets 1 à 3. Des personnes égoïstes et mécontentes sont apparues dans nos rangs de temps à autre, vantant les grandes choses qui seraient accomplies si leur but était suivi. Mais comme un feu follet, leurs lumières ont disparu depuis longtemps. La cause de la vérité présente, en attendant, a sûrement et régulièrement fait son chemin autour du monde, gagnant en stabilité et en force à chaque pas en avant. Frères, Stephenson et Hall. Au cours de l'été 1855, les frères Stephenson et Hall tentèrent de créer une rébellion dans l'état du Wisconsin. Il était bien connu des frères dirigeants qu'ils avaient voulu éprouver tous les autres points de notre foi avec leur doctrine du siècle à venir. Et ils étaient très impatients que les adventistes du septième jour reçoivent la doctrine d'un temps de grâce après le second avènement du Christ. Prédictions les concernant. Le 20 novembre 1855, Madame White eut une vision de leurs actions, avec une prédiction concernant le résultat final en ces termes. « Penses-tu, faible humain, que tu peux arrêter l'œuvre de Dieu ? Faible humain, une seule touche de son doigt peut te prosterner. Il ne te supportera que peu de temps. » Nos adversaires ont dit que c'était là une vision qui déclarait que ces hommes allaient mourir rapidement, et comme ils vécurent pendant plusieurs années, la vision ne s'est pas accomplie. Il n'y a rien dans la vision concernant leur mort. Ils furent présentés comme des hommes cherchant à arrêter l'œuvre du message du troisième ange. Alors qu'ils savaient combien il serait facile pour Dieu de les arrêter, il est ajouté « Il ne te supportera que peu de temps ». Qu'ont-ils fait ? Au lieu de réussir dans leur guerre, comme ils l'espéraient, ils furent laissés à chercher leur voie en tâtonnant dans l'obscurité. Après quelques semaines, ils abandonnèrent complètement le sabbat et se tournèrent pour s'y opposer. Ils avaient espéré former un parti du siècle à venir, avec eux-mêmes comme dirigeants. Au lieu de cela, en abandonnant le sabbat, ils ont entièrement perdu leur emprise sur nos membres. C'est ainsi que par leurs propres actions, ils ont complètement manqué d'accomplir leurs buts originels. Notre peuple a dit « En effet, Dieu ne les a supportés que peu de temps. » Une triste fin de vie. Quant au sort de ces deux hommes, il peut être bon de donner certaines déclarations concernant leur triste fin, déclarations qui furent faites par leurs propres frères, des croyants du siècle à venir, avec qui ils étaient associés après avoir abandonné le sabbat. Il y a 37 ans, M. Hall est devenu quelque peu dément, produit par un ramollissement du cerveau, parce que d'autres personnes l'avaient escroqué d'une grande quantité de ses biens. Il travailla avec l'illusion que s'il allait dehors, il s'aplatirait ou tomberait par terre. Il est inoffensif, mais fut, bien sûr, totalement inapte au travail pastoral dans n'importe quelle capacité que ce fût pendant toutes ces années. Frère Stephenson est mort depuis environ 16 ans. Pendant plusieurs années avant sa mort, il était aliéné, fou, mais sans danger pour les autres. Avant de devenir ainsi, en vertu de la liberté qu'il supposait avoir selon la théorie qu'il avait épousée qu'il n'y a pas de loi, il quitta sa propre femme, une femme contre laquelle aucune tâche de vertu n'a été revendiquée. Il put obtenir un divorce uniquement en employant un avocat malhonnête, et en a épousé une autre beaucoup plus jeune que son ex-épouse. Cet acte était une telle violation flagrante de la moralité que ses propres frères du siècle à venir s'opposèrent à lui et ne lui permirent plus de prêcher pour eux. Les déclarations de leurs propres frères concernant les derniers jours de ces hommes expriment la plus profonde pitié. Ce sont pourtant les faits sans fard, donnés sans malice ni préjudice. Avec cela, nous laissons nos lecteurs tirer leurs propres conclusions sur l'application pratique du témoignage. Frère Wagoner accepte le message. En 1852, Frère Wagoner, qui avait dirigé un périodique de comté dans le Wisconsin, a accepté la vérité présente, et l'année suivante, il s'est donné pleinement à l'œuvre du ministère. En 1857, il écrivit deux brochures très importantes d'environ 200 pages chacune. La première avait pour titre « The Nature and Tendency of Modern Spiritualism »« La nature et la tendance du spiritualisme moderne ». Et la deuxième, « A Refutation of the Age to Come », une réfutation du siècle à venir. Non seulement la première fut un moyen d'éviter à de nombreuses personnes de tomber dans ce piège de Satan, mais, avec la bénédiction de Dieu, elle ouvrit les yeux de beaucoup de personnes qui ne savaient que penser de ces manifestations modernes. Sa « Refutation of the Age to Come », « Réfutation du siècle à venir », est un exposé des plus complets des fausses théories d'un temps de grâce pour les pécheurs après la seconde venue de notre Seigneur. C'est une réfutation si complète de cette doctrine que non seulement personne n'y a répondu, mais nous n'avons encore jamais vu de tentative de réponse. Le livre présente, d'une manière claire et concise, la position du Christ en tant que prêtre sur le trône de son Père, sa prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, pendant la dispensation actuelle, et la position qu'il occupera sur son propre trône, dans son futur royaume éternel, trône qui ne sera relié à aucune prêtrise médiatrice. Un peu plus tard, frère Wagoner écrivit une troisième brochure d'environ la même taille, intitulée « The Atonement in the Light of Reason and Revelation », l'expiation à la lumière de la raison et de la révélation. Vers l'année 1884, elle fut révisée et allongée en un volume de près de 400 pages. C'est un ouvrage clair et concis sur le sujet indiqué par son titre. À partir de cette époque, il fut intimement lié à l'œuvre des publications, à la fois comme écrivain et comme éditeur. Il a également poursuivi son travail pastoral, ses dernières années étant passées en Europe. Le 17 avril 1889, il est décédé subitement à Bâle, en Suisse, juste après avoir terminé son dernier livre, « From Eden to Eden », « D'Éden en Éden ». Le 16 avril, il écrivit toute la journée et mit cette entrée dans son journal. « J'ai fait une journée de travail bien remplie ». Les détails suivants sur sa mort ont été tirés du rapport fait par des frères européens. Au matin du 17 avril, vers 5h30, il est tombé mort dans sa cuisine, sans avertissement, d'une paralysie du cœur. Il avait travaillé très dur pour terminer l'édition anglaise de son nouveau livre, et il devait partir pour Londres le dimanche suivant pour travailler là-bas avec l'œuvre, avant de retourner en Amérique l'été suivant. Depuis 1854, frère Wagoner avait été constamment et visiblement face au public pour défendre la vérité, tant en chair que dans la presse. Au moment de sa mort, il avait presque 69 ans. Il fut enterré à Bâle le 20 avril. Ainsi tomba à son poste de travail un autre pionnier de la cause. Guérison par la foi. Au début du printemps de 1858, Madame White avait été grandement affligée pendant un certain nombre de jours, confinée dans son lit dans un état presque impuissant. Un soir, vers minuit, elle s'évanouit. La famille essaya de son mieux de lui rendre conscience, mais échoua dans ses efforts. Elle resta dans cet état pendant plus d'une demi-heure, quand frère Andrews et moi-même fûmes convoqués à la hâte par frère White pour nous joindre à une réunion de prière. En réponse aux pétitions sincèrement offertes à son chevet, le Seigneur compatissant lui rendit conscience et la ramena à sa santé habituelle. Tout en offrant des louanges à Dieu, elle fut prise en vision, toujours couchée dans son lit. Certaines des choses montrées dans cette vision peuvent être lues dans Testimony for the Church, Témoignage pour l'Église, numéro 5. Une remarquable manifestation physique. Cette vision fut accompagnée d'une manifestation physique particulière sur laquelle nous attirons spécialement l'attention. Frère White et moi-même étions assis d'un côté du lit et frère Andrews de l'autre côté. Les mains de Sir White étaient en alternance jointes sur sa poitrine ou bougeaient avec ses bras, comme à son habitude, de manière gracieuse et libre vers les différentes scènes qu'elle voyait. La partie supérieure de son corps était soulevée du lit, de sorte qu'il y avait un espace d'environ 20 à 25 cm entre ses épaules et l'oreiller. En d'autres termes, son corps depuis les hanches jusqu'en haut était pliée à un angle d'environ 30 degrés. Et elle est restée dans cette position pendant la durée de la vision, qui fut de 30 minutes. Personne ne pourrait garder naturellement cette position sans céder de ses mains et de ses bras, et encore moins tenir ainsi pendant tout ce temps. Là encore était la preuve qu'un certain pouvoir sur lequel elle n'avait aucun contrôle était associé à la vision. Une autre prédiction. Le 1er octobre 1858, une assemblée générale fut tenue par frère et sœur White et l'auteur, à Rochester, New York. Après cette rencontre, l'auteur les a accompagnés dans une tournée à travers l'État de New York et les États de la Nouvelle-Angleterre. Un jour de sabbat, Madame White a eu une vision pendant laquelle elle vit, entre autres choses, qu'à un certain endroit de notre voyage, Satan allait l'attaquer avec puissance, et que Frère White et moi-même devrons la soutenir par la foi, et le Seigneur la délivrerait. L'affliction de Madame White. Ici, encore une fois, était une prophétie de ce qui allait se passer. La suite montrera la précision avec laquelle elle fut accomplie. Le premier sabbat après la réunion de Rochester, nous étions à Roosevelt, et le sabbat suivant à Brookfield, dans le comté de Madison. La semaine d'après, nous avons tenu des réunions dans la spacieuse cuisine de M. Ballou, à Mansville, dans le comté de Jefferson. Pendant le voyage en train de Brookfield à Mansville, le visage de Madame White devint enflammé juste sous les yeux. C'était si douloureux que lorsque nous arrivâmes à Mansville, elle fut obligée de s'aliter. L'inflammation augmenta pendant 2 jours, la privant de sommeil, ainsi que de prendre part aux réunions. Sa tête était si enflée que ses yeux étaient fermés, et son visage était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à celui d'un être humain. Au milieu de toute cette extrême douleur et de cette grande nervosité, causée par la perte de sommeil, l'ennemi faisait tous ses efforts pour la faire murmurer contre Dieu. Les choses continuèrent ainsi jusqu'à la fin des réunions prévues. Après que les réunions furent terminées, Frère White me dit « Frère John, c'est l'attaque de Satan sur ma femme dont on nous a prévenus à Rochester. Vous vous souvenez que la promesse fut faite que si nous la soutenions ensemble par la foi, sans abandonner pour un seul moment lorsque la lutte surviendrait, la puissance de l'ennemi serait brisée et elle serait délivrée. Allons-y aussitôt et ayons une réunion de prière. » Délivrance comme prévu. Nous sommes allés immédiatement dans la chambre où Madame White était confinée dans son lit, et nous engageâmes dans une prière fervente pour elle, tandis que les frères dans la pièce où nous avions des réunions restaient en prière silencieuse. Après 10 minutes environ de prière, la puissance du Seigneur est descendue et a rempli la chambre. Madame White fut libérée de toute douleur instantanément et demanda aussitôt à manger. Il était environ 5 heures de l'après-midi. À 7 heures, l'enflure avait entièrement disparu de son visage, et elle assista à la réunion ce soir-là, et elle apparut aussi bien que jamais. À la demande des citoyens, un discours fut donné dans la soirée sur l'héritage des saints, à l'issue duquel Madame White fit une exhortation. Tandis que Frère White était dehors avec son petit garçon, Willy C., elle fut prise en vision devant cette grande assemblée. Certaines des choses qu'elle vit à ce moment-là peuvent être lues dans le dernier article du témoignage numéro 5, daté de Mansville, New York, le 21 octobre 1858. Le soulagement mentionné ci-dessus, obtenu par Madame White, fut aussi efficace que cela avait été prédit dans la vision reçue à Rochester. Aucune difficulté de ce genre ne se reproduisit pendant ce voyage, et nous eûmes d'une glorieuse victoire pour la vérité à chaque endroit visité. Prédiction de la guerre civile américaine. La maison de réunion des adventistes du 7e jour de Parkville, dans le Michigan, fut inaugurée pendant le sabbat 12 janvier 1861, exactement 3 mois jour pour jour avant que le premier coup de feu soit tiré sur Fort Sumter, qui était en réalité le début de la guerre qui aboutit à la libération de 4 millions d'esclaves africains en Amérique. Frère White et son épouse, les frères Wagoner, Smith et l'auteur, assistaient au service. À la fin du discours de Frère White, Madame White fit une exhortation, après quoi elle prit place sur une chaise. Là, elle fut prise en vision. La maison était pleine de gens, et c'était vraiment un endroit solennel. En sortant de la vision, elle se leva, et regardant dans la pièce, elle dit « Il n'y a pas une personne dans cette maison qui a rêvé du trouble qui vient sur ce pays. » Les gens se moquent de la déclaration de sécession de la Caroline du Sud, mais je viens juste de voir qu'un grand nombre d'États se joindront à cet État, et il y aura une guerre des plus terribles. Dans cette vision, j'ai vu de grandes armées des deux côtés se réunir sur le champ de bataille. J'ai entendu le bruit du canon, et j'ai vu de tous côtés des morts et des mourants. Puis je les ai vus se précipiter et s'engager dans un combat au corps à corps, se transperçant les uns les autres à la baïonnette. Puis j'ai vu le champ après la bataille, tout couvert de morts et de mourants. Ensuite, j'ai été transporté dans les prisons, et j'y ai vu les souffrances de gens dans le besoin, en train de dépérir. Ensuite, je fus emmené dans les maisons de ceux qui avaient perdu des maris, des fils, ou des frères dans la guerre. J'ai vu leur détresse et leur angoisse. Puis, regardant lentement autour d'elle, elle dit « Il y a des gens dans cette maison qui vont perdre des fils dans cette guerre. » Le témoignage de Madame Ansigne concernant les visions. En confirmation du fait ci-dessus, et comme preuve que la prédiction fut faite le jour indiqué, et comme une illustration de la manière dont la congrégation l'a comprise et la fit circuler, nous donnons le témoignage suivant. La présente lettre atteste que je vivais dans le comté de Saint-Joseph, Michigan, en janvier 1861, à environ 10 km de Parkville. Je n'étais pas adventiste. Le 12 de ce mois, un certain nombre de mes voisins sont allés à Parkville pour assister à des réunions. Quand ils sont revenus chez eux, ils m'ont dit qu'il y avait une femme à la réunion qui était en transe et qui a dit qu'il y avait une terrible guerre venant sur les États-Unis, que de grandes armées seraient rassemblées des deux côtés, aussi bien dans le sud que dans le nord, et il y en aurait beaucoup qui souffriraient dans les prisons, et de grands besoins seraient ressentis dans beaucoup de familles par la perte de leurs maris, leurs fils et leurs frères dans la guerre, et qu'il y avait des hommes présents à la réunion qui perdraient des fils dans cette guerre. Signé, Martha V. Ensign, Wildflower, comté de Fresno, Californie, le 30 janvier 1891. En relation avec la prédiction de cette terrible guerre, Madame White a également déclaré que les adventistes du septième jour seraient placés dans des situations délicates à cause de la guerre et qu'il était du devoir de tous de prier sincèrement que la sagesse leur soit donnée pour qu'ils sachent quoi faire pendant les temps difficiles devant eux. L'ampleur de la guerre civile. Au moment de la réception de la vision, les nordistes n'avaient en général que peu d'idées, ou aucune idée, de la guerre en instance. Même le président Lincoln, 3 mois plus tard, le 12 avril 1861, lorsque plusieurs États s'étaient joints au décret de sécession de la Caroline du Sud et que le premier coup de feu fut tiré sur Fort Sumter, appela seulement 75 000 hommes, et uniquement pour un court terme de 3 mois. Le nombre total de soldats inscrits du côté de l'Union pendant la guerre fut de 2 859 132. L'Encyclopédie Britannica dit que l'armée confédérée comptait, au début de 1863, environ 700 000 hommes, mais qu'il est difficile d'évaluer exactement le total de ceux qui avaient été enrôlés. Elle estime le nombre de leurs morts à environ 300 000 hommes. Certaines encyclopédies récentes estiment les pertes de l'Union, ceux qui furent tués au combat ou qui moururent de blessures ou de maladies contractées sur le champ ou dans les prisons, à 359 528. De la dette de l'Union, la Britannica écrit « La dette atteignit son maximum le 31 août 1865, pour un montant de 2 845 907 626,56 $. Quelques 800 millions de dollars de revenus furent également consacrés, principalement à la guerre, des États, des villes, des comtés et des communes avaient dépensé leurs taxes et accumulé leurs propres dettes pour la guerre. Les paiements de pensions s'élèveront probablement en fin de compte à 1 500 millions de dollars. Les dépenses de la Confédération ne pourront jamais être connues. Les biens détruits par les armées fédérales et par les armées confédérées peuvent difficilement être estimés. Et la valeur monétaire, 2 milliards de dollars, des esclaves du Sud fut anéantie par la guerre. Au total, tandis que le coût de la guerre ne peut pas être calculé exactement, on considère que 8 milliards de dollars est une estimation modérée. Une autre confirmation de la vision. Quant à la prédiction concernant les hommes présents dans la maison à la réunion de Parkville et perdant des fils dans la guerre, je dirais simplement qu'en automne 1883, j'ai rencontré l'ancien de l'église de Parkville, qui était aussi l'ancien en janvier 1861, lorsque la vision fut donnée. Et je lui ai demandé s'il se souvenait de la déclaration de Madame White lorsqu'elle relata la vision sur la guerre. « Oui, dit-il, je m'en souviens. Pouvez-vous me dire le nombre de ceux qui étaient présents dans la maison ce jour-là et qui perdirent des fils dans la guerre ?» Il s'est tout de suite rappelé les noms de 5 hommes et a dit « Je sais qu'ils étaient là et qu'ils perdirent des fils dans la guerre. Et, si j'étais à la maison, où je pourrais parler avec mes connaissances ?» Je pourrais vous donner d'autres noms. Je pense, a-t-il poursuivi, qu'il y en avait 5, en plus de ceux que j'ai mentionnés. Ces 4 ans et plus de combats persistants de la part du Sud, jusqu'à ce que près de la moitié de toutes les forces réunies mourût au combat ou de maladie, montrent une réalisation remarquable de la prédiction ci-dessus. L'esclavage et la guerre. En rapportant une vision qu'elle reçut le 4 janvier 1862, Madame White dit « Des milliers de personnes ont été persuadées de s'enrôler dans l'idée que cette guerre devait abolir l'esclavage. Mais maintenant qu'ils sont au courant, ils constatent qu'ils ont été trompés, que l'objet de cette guerre n'est pas d'abolir l'esclavage, mais de le conserver tel qu'il est. » Ce qui précède fut donné lorsque les soldats devaient aider à retourner à leur maître tous les esclaves qui s'étaient échappés dans les lignes de l'Union. Et les soldats sont présentés comme disant « Si nous réussissons à réprimer cette rébellion, qu'est-ce qui aura été gagné ?» Ils répondent découragés « Rien. La cause de la rébellion n'est pas supprimée. Le système d'esclavage qui a ruiné notre pays continuera et suscitera une autre rébellion. » Ces mots, extraits du témoignage numéro 7, où l'on trouve un récit passionnant de la guerre dans son intégralité, sous le titre « L'esclavage et la guerre », ne dit pas que l'esclavage ne sera jamais aboli, mais présente la situation telle que les soldats la voyaient alors. Un peu plus loin dans le même témoignage, on lit la prédiction suivante. Prédiction de succès du Nord. Un jeûne national est à nouveau proclamé. Le Seigneur dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Lorsque notre nation observera le jeûne que Dieu a choisi, alors il acceptera leur prière concernant la guerre. Mais maintenant, elle n'entre pas dans son oreille. » Ceux qui connaissent l'histoire de la guerre civile sont au courant des défaites, des catastrophes, des retards, etc., liés aux efforts déployés par le Nord pour conquérir les forces du Sud jusqu'au moment où la proclamation d'émancipation a été faite, le 1er janvier 1863. Alors combien furent rapides les conquêtes depuis ce moment jusqu'à la fin de la guerre ? Combien était évidente la réalisation de la prédiction du 4 janvier 1862 pour ceux qui regardaient l'avancement de l'œuvre ? Après que les chaînes de la méchanceté furent déliées, les liens de la servitude dénoués et le joug de l'esclavage brisé, combien il est évident que Dieu entendit les prières de son peuple et qu'il favorisa l'effort de finir la guerre quand ils choisirent le jeûne qui lui est agréable. Témoignage de l'ex-gouverneur St. John. Dans un discours de John P. St. John, ex-gouverneur du Kansas, à Ottawa, Illinois, que j'écoutais dans l'après-midi du 29 juin 1891, il fit la déclaration suivante. « Je n'ai jamais été aussi déçu que lorsque les Confédérés nous battirent à Bull Run. Mais tout cela faisait partie du plan de Dieu. Si nous avions battu les Confédérés, les politiciens auraient ourdi la paix, et l'Union aurait continué avec l'esclavage, et nous l'aurions encore aujourd'hui. Pendant 2 ans, les Confédérés eurent l'avantage, mais après que Lincoln eut signé la célèbre proclamation d'émancipation, nous avions basculé du côté de Dieu, et nous ne pouvions pas perdre. »